tout le monde à 1%, à quelque niveau que ce soit, TPE, PME, ETI, start-up ou entreprise déjà largement implantée, tout le monde peut consacrer 1% de son chiffre d'affaires à la protection de l'environnement et à la protection de la planète parce qu'elle en a bien besoin.
Bienvenue dans le podcast Activer l'économie circulaire.
Je suis Brieux Saffré.
Je suis Justine Laurent.
Nous sommes fondateurs de l'agence de conseil et design Circulable. Nous travaillons avec les entreprises, collectivités et entrepreneurs pour concevoir leurs stratégies, produits et services et ainsi apporter des solutions aux enjeux de ressources et de résilience des territoires.
Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de dirigeants ou de porteurs de projets qui appliquent les principes du vivant et la pensée systémique pour concilier développement économique, inclusion sociale et régénération des écosystèmes.
Vous pouvez nous retrouver sur le site circulable.com ou sur les réseaux sociaux.
Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour rester à jour sur les meilleurs exemples d'économie régénérative.
Bonne écoute à vous.
Bonjour à tous, à toutes et tous. Donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast. Donc, aujourd'hui, je suis avec Isabelle Susini, qui est directrice France, pardon, de 1% for the Planet. Donc Isabelle, merci beaucoup d'être avec moi ce matin.
Bonjour Justine, merci à toi.
Donc du coup, 1% for the Planet, c'est une organisation donc de laquelle avec Circulab on fait partie depuis un an. Et Isabelle va pouvoir nous en dire un petit peu plus sur cette organisation, sur la philosophie, les valeurs et comment ça fonctionne. Mais avant ça, Isabelle, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire un petit peu quel est ton parcours et comment tu en es arrivée à là?
Alors, bonjour à tous. Alors, me présenter, c'est pas toujours évident de se présenter à froid comme ça. Moi, ça fait presque 5 ans que j'ai repris la direction du 1% for the Planet France. Auparavant, j'étais déjà un petit peu dedans sans l'être puisque je faisais partie de l'équipe Patagonia et je m'occupais de la RSE et de la philanthropie de Patagonia Europe. Je m'en suis occupée pendant 13 ans. Mon parcours a toujours été très tôt dans la protection de l'environnement. J'ai commencé en fait ma carrière suite à des études de commerce. J'ai commencé dans le marketing et je me suis rapidement rendu compte que ça ne me convenait pas. Et j'ai repris des études de protection de l'environnement, enfin gestion et génie de l'environnement. Et c'est ce qui m'a permis de travailler dans la protection de l'environnement quasiment dès le départ.
Et du coup, tu as commencé chez Patagonia suite à cette reprise d'études ou il y a eu un entre deux?
Non, j'ai eu avant de travailler chez Patagonia, j'ai travaillé chez Yves Rocher, ouais. Aussi au service environnement pendant 3 ans. Et puis après, j'ai eu la chance d'avoir un moment pour faire une année sabbatique. J'ai pas mal voyagé, beaucoup avec une thématique environnementale, en partie avec un vélo. Et puis suite à ça, il y avait une ouverture de poste chez Patagonia, donc j'ai pu rejoindre l'équipe qui à l'époque était à Boulogne-Billancourt. Ouais. Et donc je m'occupais au départ d'une partie marketing, communication et environnement, puis la structure grandissant et Patagonia grandissant, on a pu dédier mon poste à tout ce qui était responsabilité sociale et environnementale, réduction de l'empreinte écologique de l'entreprise, et puis évidemment la philanthropie de Patagonia, puisque c'est Patagonia qui a fondé, enfin c'est Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia, qui a fondé le 1% for the Planet en 2002. Donc tous les dons faits par Patagonia en Europe faisaient partie du 1% mondial
initial, quoi.
Exactement.
Ok.
Et donc j'ai pu assister à la création du 1% pour la planète et à son développement en Europe avant même de faire partie intrinsèque de l'équipe.
Ok, super. Et maintenant que tu fais partie intrinsèque de l'équipe et que notamment sur toute la partie France, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est 1%? Donc on a un peu la genèse du début, mais qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, et puis depuis 18 ans du coup, où vous en êtes, voilà.
Alors, le 1% for the Planet, donc c'est un organisme à but non lucratif. Donc, comme on le disait précédemment, ça a été créé par Yvon Chouinard aux États-Unis, avec un objectif qui est partout pareil, qui est d'augmenter les sommes qui sont consacrées à la protection de l'environnement. Parce que où que ce soit, finalement, que ce soit aux États-Unis ou en France, la protection de l'environnement est le parent pauvre de la philanthropie. Si je prends uniquement pour la France, seulement 7% des sommes de la philanthropie dédiée par les entreprises est reversée à la protection de l'environnement. Donc c'est bien trop peu par rapport aux enjeux. C'est très insuffisant et c'est assez contradictoire par rapport à la place que l'environnement prend à la fois dans les médias et sachant que l'environnement et la protection de l'environnement est la préoccupation majeure des Français depuis pas très longtemps, depuis 2018. C'est le Crédoc qui a mesuré ça. C'est au top de la préoccupation des Français. Donc c'est encore la philanthropie environnementale ne suit pas encore cette préoccupation et est bien trop insuffisante. Donc nous, notre objectif, c'est d'augmenter ces sommes, c'est que ce 7% ne soit plus 7%, mais devienne 10, 20, 30%, que ce soit au moins à la hauteur des enjeux, si ce n'est des préoccupations. Et donc nous, on travaille en particulier avec les entreprises, puisqu'on on considère que c'est un bon bras de levier qui est en général assez efficace et réactif. Donc on s'adresse aux entreprises pour les convaincre de reverser 1% de leur chiffre d'affaires à des associations environnementales. Et pour les convaincre, nous on a une présélection d'associations qui sont dites agréées. On en a à peu près 500 en France. Donc ils sont les associations les plus efficaces sur les différentes thématiques environnementales. Parce qu'on considère que c'est pas toujours évident d'être philanthrope, de savoir à qui donner, quelle est la cause prioritaire. Donc par cette sorte de filtre et par cette sorte de présélection faite par le 1%, on aide les philanthropes et les entreprises à verser leur 1% à des associations efficaces.
Et alors t'évoquais ces chiffres dont j'avais aucune idée sur la préoccupation environnementale, notamment en France, aussi bien sur la partie philanthropie, donc le chiffre de 7%, que sur le côté préoccupation depuis 2018 sur l'environnement. Tu as une idée avant ça de quelles étaient les préoccupations ou quelle était la préoccupation majeure ?
Je pense que c'était l'emploi, mais ça mériterait confirmation.
D'accord. Et sur la philanthropie, c'est plutôt sur des œuvres, des pourcentages qui sont assez, assez hétérogènes, ou est-ce qu'il y a un gros poste
Alors, j'ai pas le détail sous les yeux. Je sais que c'est la culture en premier.
La culture, okay.
Et après, il y a d'autres causes, bien entendu, qui valent la peine, évidemment, tout ce qui est humanitaire, social, etc. Mais il me semble que c'est la culture qui est en premier et probablement parce que c'est ce qui est le moins impliquant, si on peut dire, enfin le moins risqué. Impliquant n'est pas le mot, mais le moins risqué pour une entreprise de financer une exposition ou un artiste, c'est moins risqué que de financer une cause environnementale ou sociale.
D'accord. Ouais, le message est différent.
C'est ça.
Ça marche. Et donc du coup, de quelle manière, enfin, quand Yvon Chouinard a aussi lui décidé, parce qu'il y avait cette action philanthropique de Patagonia et plus que ça aussi intégrée au core business et à la stratégie. Qu'est-ce qui a fait que un moment et pourquoi 1%, le fait de réunir finalement ces acteurs sous une seule et même organisation? Alors t'évoquais le parti pour les accompagner et les aider à savoir à qui on peut donner et donner voilà aussi du sens aux associations ou ONG qui pourraient recevoir ces dons-là. Dans quelle mesure le fait d'avoir une organisation qui va souder et fédérer les acteurs philanthropes, ça permet selon toi d'atteindre et d'augmenter ce pourcentage de 7%?
C'est un petit peu comme dans tous les réseaux, en fait. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sentent seuls sur plein de sujets et le fait de rencontrer et d'être dans une même communauté d'entrepreneurs engagés, c'est très rassurant. Le point qui lie tous les entrepreneurs au sein du 1%, c'est la philanthropie. Et ce qu'on essaye de faire avec cette communauté, c'est évidemment de la faire se rencontrer au maximum. Nous, on a en gros trois parties prenantes principales, que sont les entreprises qui donnent, donc c'est 460 entreprises en France, qui donnent à peu près presque la même taille de communauté, puisqu'on a 500 associations agréées en France. Et la troisième partie prenante, ce sont nos partenaires médias et nos ambassadeurs, donc c'est ceux qui portent le message du 1%, c'est en gros tout ce qui est parole publique et visibilité dans les médias. Et eux, ils nous offrent, les partenaires médias nous offrent de l'espace et de l'espace à nos messages et à ceux de nos associations. Donc tout ça, ça fait une même communauté et elle prend corps lorsqu'on fait notamment notre réunion annuelle qui se passe à Paris, qui s'appelle les rencontres associations philanthropes, où en fait on rassemble nos membres 1%, mais ça va au-delà. Ça rassemble également la communauté d'autres entrepreneurs qui peuvent être engagés ou même de fondations qui sont impliquées dans la protection de l'environnement. Et sur 2 jours, en fait, on les rassemble pour écouter les meilleurs projets de protection de l'environnement. Donc, si tu imagines le 1% et avec les 500 associations qui sont agréées à 1% sous forme d'un peu d'entonnoir, donc il y a 500 associations agréées, on fait un appel à projet qui vient d'être lancé auprès de ces 500 associations et on va présélectionner moins de 10%, on va sélectionner 40 projets, c'est la crème de la crème des projets environnementaux et ce sont ces projets-là, ces 40 projets qui viennent pitcher lors de notre réunion annuelle qui s'appelle les rencontres associations et philanthropes. Et ces 40 projets pitchent donc sur 2 jours, chacun 15 minutes, donc avec une capacité en fait à résumer un projet, et cela devant un public de 70 à 100 mécènes qui viennent écouter les projets. Et juste pour donner une idée, le 1% pour la planète en France, la philanthropie générée par les membres, la totalité des membres français, les entreprises, c'est 6 millions d'euros annuellement. Et lorsqu'on fait cette réunion, ces rencontres associations philanthropes, on arrive à rassembler plus de 20 millions d'euros en capacité philanthropique. Donc c'est juste un exemple pour montrer justement la force du collectif, c'est qu'on arrive aussi à rassembler même au-delà du 1%.
Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que tu entends par capacité philanthropique ?
La capacité philanthropique, c'est le budget annuel des fondations ou entreprises. C'est toutes les subventions et dons qu'ils vont faire sur un an, sur la thématique environnementale.
D'accord. Donc c'est ce que, et en quoi le fait de les réunir, enfin, quand tu dis que cette réunion permet de, au sens propre, hein,
oui, c'est vrai, j'ai pas expliqué ça, absolument. En fait, quand on les réunit ensemble lors des rencontres associations et philanthropes, tous ces mécènes écoutent des projets sur des thématiques environnementales qu'ils ont en commun, c'est-à-dire ce sont des causes qu'ils soutiennent d'habitude, et ils échangent entre eux suite au pitch, ils peuvent échanger entre eux, ils peuvent faire un partage d'expériences. Et surtout, ils peuvent cofinancer.
D'accord.
Donc, l'idée derrière ces 2 jours de partage, c'est d'accélérer les flux financiers. C'est faire en sorte que il y ait une accélération des dons par ce partage et cette mise en commun de convictions.
D'accord. Donc, ça veut dire que, effectivement, c'est ce que tu dis, ouais, ça boucle avec ce que tu disais sur ça va au-delà des 1%, c'est-à-dire que c'est des personnes qui, donnaient éventuellement déjà 1%, mais le fait d'être dans cette dynamique d'écoute, de partage, de rencontrer aussi, j'imagine, les associations, etc., porteurs de projets de protection de l'environnement, va permettre d'engager les mécènes au-delà du 1% en cofinançant, en donnant davantage de financement, ces choses-là, c'est ça que tu dis, quoi.
Alors oui, parce que nous, enfin, on a créé cet événement pour 2 raisons. La première, c'est que on a créé cet événement même pour 3 raisons. Donc la première, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent dédié à la protection de l'environnement. Ça, c'est même le point de base de l'existence du 1%. La deuxième raison, c'est que dans tout ce qui est levée de fonds, que ce soit, c'est d'ailleurs valable pour les associations comme pour les startups, les associations passent beaucoup de temps à chercher de l'argent. Mmh. Et tout le temps qu'elles passent à chercher de l'argent, c'est du temps qu'elles ne passent pas à défendre la cause pour laquelle elles sont hyper motivées et expertes. Mmh. Donc nous, on a voulu créer un événement qui leur permettait efficacement de lever des fonds. En rencontrant, en 15 minutes, elles ont accès aux principaux acteurs de la philanthropie environnementale. Et la troisième raison, c'est l'humain, c'est se dire que toutes les fondations, les entreprises, elles reçoivent des tonnes de demandes de subventions. Alors, c'est des fichiers PDF, c'est des emails, c'est parfois des coups de téléphone, mais il n'y a rien qui remplace la rencontre humaine. Et la rencontre humaine, c'est évidemment entre le porteur de projet et celui qui peut soutenir financièrement. C'est aussi entre porteurs de projet parce qu'ils vont beaucoup échanger par thématique environnementale. Ils travaillent pour certains, ils travaillent vraiment sur les mêmes sujets. Donc, ils vont pouvoir se coordonner, travailler ensemble et aussi pour être plus efficaces. C'est aussi évidemment des rencontres entre mécènes, encore une fois, un partage d'expériences. Comme il y a beaucoup de temps qui sont dédiés aux échanges mécènes, disons. Si un mécène a fait un audit sur un projet à tel endroit, il peut partager cet audit, il peut partager son retour d'expérience et ça fait progresser la communauté dans son ensemble.
Ouais, c'est exactement ça. Enfin, c'est fou hein, à quel point. Le fait de faire rencontrer ces gens-là, ils disent probablement la même chose, mais en fait, c'est exactement moi ce qui m'est venu à l'esprit quand tu m'as dit c'est une rencontre et dans cette rencontre, on triple quasiment la capacité, je ne sais plus comment t'appeler ça, si c'est ça la capacité.
Philanthropique.
Philanthropique. En fait, c'est ça, c'est l'humain. Il y a peut-être aussi cette notion de confiance, finalement, où aussi bien pour l'aspect, il y a des demandes de dons, de subventions qui arrivent de tous les côtés. Là, le fait que qu'on soit en face, que la personne nous raconte une histoire, il y a peut-être aussi cette confiance et ce rapport, individuel qui se développe et qui va nous pousser à davantage franchir le cap. La place de l'humain, c'est surtout quand on est sur une question de philanthropie, on a aussi envie de savoir, je pense, à qui on donne.
Bien sûr, c'est exactement ça. Heureusement que l'humain a toujours une place importante et c'est ce qui fait tout l'intérêt de ces rencontres.
De quelle manière, finalement, ce 1% et cette philanthropie peut faire écho à des démarches un petit peu plus globales ou un petit peu plus stratégiques menées ou portées par les membres, quoi?
La plupart du temps, le fait d'être philanthrope, c'est inclus dans une stratégie globale. Et c'est difficile de dissocier la philanthropie environnementale de l'activité de l'entreprise. Dans la plupart des cas, il y a une cohérence entre cette philanthropie et une politique RSE menée par l'entreprise. C'est très rare que ce soit complètement dissocié. En même temps, la philanthropie, c'est vraiment l'acte le plus facile, si on peut dire, même si nous, on demande un niveau très élevé, puisque c'est 1% du chiffre d'affaires. Mais ça reste uniquement le fait de faire un chèque, si on peut dire, ou un virement pour des associations de protection de l'environnement. C'est plus facile à mettre en place, et c'est presque la première étape, parce qu'elle est plus facile, dans une politique plus globale de RSE. Nous, notre propos n'est pas de... On n'a pas de sélection à l'entrée. Donc, les entreprises, le fait d'être au 1%, il n'y a pas la nécessité de montrer patte blanche sur une politique RSE ou sur un autre label. N'empêche que, dans les faits, la plupart des entreprises qui sont membres 1%, c'est pas un hasard si elles sont membres, c'est aussi parce qu'elles essaient de limiter leur empreinte globalement. En fait, c'est vraiment ce qui est intéressant avec la philanthropie et avec le 1% for the planet, c'est que finalement, Même s'il n'y a pas d'exigence sur l'empreinte écologique de l'entreprise à l'entrée, on se rend compte que à la fois c'est l'entreprise qui nourrit la philanthropie, donc par ce flux financier entre guillemets à la fois volontaire et contrôlé par le 1% à hauteur donc de 1% du CA, mais c'est dans l'autre sens, la philanthropie nourrit l'entreprise et peut permettre de, si elle n'est pas encore établie, d'être un fil conducteur pour une politique RSE, que ce soit parce que la philanthropie, on peut engager ses collaborateurs pour attribuer cette philanthropie qui est générée par leur travail finalement. Donc par exemple, si l'entreprise membre du 1% décide que les attributions de cette philanthropie soient décider collégialement, donc en organisant des comités de décision avec les collaborateurs ou en faisant des activités de terrain qui au profit d'associations, parce que d'ailleurs tout ce qui est mécénat de compétences est inclus dans le calcul du 1%. Tout ça, ça nourrit énormément finalement, ce qu'on appelle la marque employeur, donc l'intérêt de travailler pour telle ou telle entreprise, ça donne du sens à son travail. Donc c'est à la fois la philanthropie qui nourrit l'entreprise et l'entreprise qui nourrit la philanthropie. Ça va vraiment dans les deux sens.
Et dans quelle mesure, parce que je sais que très souvent, je sais pas si tu as un avis et quel est ton avis là-dessus, mais que très souvent sur la philanthropie, notamment environnementale, en tout cas nous, on entend aussi c'est un moyen pour des organisations, se dédouaner de toute responsabilité, de verser 1% en se disant c'est bon, on fait notre part du travail. Est-ce que ça, c'est effectivement quelque chose que tu ressens? Alors, peut-être pas avec 1%, mais dans quelle mesure? Enfin, voilà, il y a aussi, j'imagine, des limites, comme il y a des limites à tout. Quel peut être le risque et surtout comment on s'assure, si c'est possible? Que ces 1%-là, si ce n'est plus, s'intègrent dans une démarche vraiment vertueuse et finalement, comme tu disais tout à l'heure, de préoccupation environnementale et que c'est pas juste quelques centaines de milliers d'euros qui nous permettent de nous dédouaner de toute responsabilité en tant que super pollueur ou en tant qu'entreprise qui ne respecte pas du tout les ressources naturelles, par exemple.
Alors, nous, on a quand même un petit filtre. Et on a une liste d'activités qui sont bannies à l'entrée du 1%. Donc, on n'accepterait pas qu'une entreprise qui soit dans le pétrole, soit dans les produits chimiques, soit dans l'armement, dans le tabac ou la pornographie. Donc ça, ce sont les secteurs habituellement bannis par tout ce qui est investissement socialement responsable. Donc ils sont bannis aussi chez nous. Et de toute façon, du reste, on n'a jamais eu de demande d'acteurs de ces industries-là. Donc déjà, on élimine, on va dire, un certain nombre d'industries qui viennent tout de suite en tête quand on pense aux plus gros pollueurs. Encore une fois, le 1%, c'est quand même une démarche très pragmatique d'Yvon Chouinard, qui a été vraiment très, très visionnaire, et de se dire 1% du chiffre d'affaires, c'est un très haut niveau. C'est pas 1% des bénéfices, c'est bien du chiffre d'affaires. Donc c'est dans la plupart des cas, c'est pas du tout pour se dédouaner parce que c'est un investissement, c'est un montant qui a un très haut niveau. Il faut vraiment le vouloir pour être philanthrope à ce niveau-là. Et donc encore une fois, même si nous on ne fait pas d'autres filtres supplémentaires, en plus des industries bannies, on va pas demander aux entreprises d'être bicorp par exemple pour rentrer au 1% ou d'avoir fait une démarche ISO 26000 ou je ne sais quoi. On estime que là l'urgence c'est la nécessité de répondre à la crise environnementale par un moyen qui est l'argent dont les associations ont besoin. Donc, c'est accélérer ces flux financiers. Donc, juste par un souci d'efficacité, on accepte toutes les demandes des entreprises qui ne sont pas blacklistées, on va dire.
Ok. Et après, peut-être aussi plus pour revenir, pour boucler avec ça, et puis toi, ton expérience aussi pendant 13 ans chez Patagonia Europe, et puis aussi avec quand bien même tu t'as pas poursuivi, mais t'as aussi fait une école, tu disais des études de commerce, donc avec un aspect orienté plutôt business quoi. Dans quelle mesure, on parlait tout à l'heure de la préoccupation à la protection de l'environnement, toi, tu as pu sentir que cette préoccupation-là, elle était de plus en plus forte pour les organisations, les entreprises et notamment les entreprises business, parce que alors, le fait qu'il y ait de plus en plus d'associations et d'ONG qui se développent aussi, alors c'est peut-être pas le cas, mais en tout cas, de ce que je vois, j'ai l'impression que ça l'est, sur la protection de l'environnement. Donc, ça prouve qu'il y a un réel besoin finalement en aval. Et voilà, comment toi t'as senti un petit peu que cette préoccupation évoluait, mais là pas trop d'un point de vue français citoyen, mais plutôt d'un point de vue business en fait tout simplement. Et comment est-ce que c'est intégré aujourd'hui par les organisations avec qui toi t'es aussi amené à être en contact à travers le 1%?
Écoute, là j'avoue que effectivement dans le temps, avoir une perspective un peu plus lointaine, entre le moment où moi j'ai commencé chez Patagonia, donc en 2001 et maintenant, il y a une vraie prise de conscience. La raison d'être de Patagonia en 2001 et jusqu'à assez récemment, c'était faire les meilleurs produits, causer le moindre impact, utiliser le monde des affaires pour inspirer et mettre en place des solutions à la crise environnementale. Donc, quand je parlais de quand j'exprimais cette raison d'être auprès, de contacts ou d'une sphère d'influence de Patagonia, déjà en 2001, j'avais l'impression que Patagonia était un ovni dans le monde du business. Et au fur et à mesure que les années ont passé, ça devenait de plus en plus facile de communiquer cette raison d'être. Ça paraissait presque une évidence qu'il y avait une mission environnementale, qu'une entreprise pouvait avoir une mission environnementale. Donc c'est jusqu'à assez récemment. On va dire que c'est assez récemment quand même que cette prise de conscience est née, mais bon, il y a une évolution positive. En l'occurrence, la raison d'être de Patagonia a récemment changé et désormais, notre entreprise existe pour sauver notre planète. Donc, c'est encore plus ancré. C'est même plus pour faire les meilleurs produits possibles, c'est pour sauver la planète. Donc, cette évolution, même au sein de Patagonia et dans la perception que les parties prenantes autour de Patagonia peuvent avoir de cette entreprise, ça a quand même beaucoup évolué. Le chiffre d'affaires croissant de Patagonia, d'ailleurs, est le résultat de cette prise de conscience. C'est que les consommateurs sont de plus en plus exigeants et regardants sur la politique RSE d'une entreprise. Mais sans même juste prendre le cas de Patagonia, en ayant la vision 1% for the planet, nous, en tant qu'organisme, on double chaque année. Donc, on a été 200 début 2019, on a fini à 400 membres et là, on est déjà à 460. Donc, ça va très vite. Donc, il y a une très forte demande organique de la part des entreprises pour agir et de manière simple et efficace, comme le propose 1%. Mais bon, il y a un vrai souci de la part des entrepreneurs et une volonté d'agir. Et puis et d'ailleurs le réseau croît par l'acquisition de nouveaux membres, mais on constate aussi que nos membres ont un chiffre d'affaires qui croît parce qu'ils sont plus leur politique RSE, y compris leur philanthropie, leur permet d'être probablement plus performants.
D'accord. Et tu sens aussi que ça, en termes de... Que tu vois, il y a aussi des structures de taille assez importantes dans le 1%, notamment en France. Tu sens que même en termes de... est-ce que tu es amené à échanger avec eux là-dessus? Je sais pas, mais sur la manière dont ça commence à prendre forme aussi au sein des structures, quoi. De la manière dont ils abordent différemment la question des ressources, où l'environnement devient un allié plus qu'uniquement une contrainte sur faut être plus responsable, c'est plutôt de quelle manière on peut s'inscrire là-dedans positivement.
Ça, Ça, c'est vraiment une démarche qu'ils font depuis longtemps, en fait. Quand on prend les ETI membres du 1%, la plupart sont des entreprises familiales, ouais, déjà engagées en termes, enfin, historiquement, en termes de RSE. Donc, c'est, la prise de conscience ne date pas d'hier. Elle est vraiment dans l'ADN de la plupart de ces entreprises-là.
D'accord.
Donc, je ne vois qu'une implication qui va encore plus loin. Elle était déjà forte, mais elle va encore plus loin.
Comment est-ce que, selon toi, est-ce qu'il y a des leviers d'action qui permettraient de faire en sorte que, de généraliser en fait cette démarche-là et que de plus en plus d'entreprises soient engagées en faveur de la protection de l'environnement?
Il y a peut-être les leviers d'action, il y a probablement des questions fiscales. Aujourd'hui, en France, la fiscalité est assez favorable à la philanthropie. Elle pourrait l'être encore plus. C'est-à-dire que quand une entreprise donne 1% de son chiffre d'affaires à des associations environnementales, elle va pouvoir déduire la moitié de ses impôts, puisque c'est capé à 1,5% du CA, sauf pour les petites entreprises, elles peuvent aller jusqu'à maintenant 20 000 euros. Donc, il n'y a pas ce fameux cap d'1,5%. Ça va toucher les entreprises qui sont jusqu'à 2-3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, ce ne sont pas des toutes petites entreprises, cela dit. Mais donc il y a déjà un effort sur la fiscalité qui est fait par l'État français, mais ça pourrait encore aller plus loin. C'est-à-dire qu'il pourrait, je pense que l'accélération, c'est si tout ce qui est pratique respectueuse est de plus en plus favorisé, y compris la philanthropie. Je pense que ça va même au-delà de la philanthropie.
Ok. Et donc, est-ce qu'éventuellement, tu as un petit mot de la fin par rapport des entreprises ou des organisations qui sont déjà alors plus ou moins impliquées, mais en tout cas, voilà, leur dire de franchir le cap, comme tu dis, le 1% peut déjà changer beaucoup, en fait. Donc, quel serait le petit mot de la fin pour pas forcément convaincre, mais en tout cas aider les organisations qui souhaiteraient franchir le cap de « il faut agir en faveur de l'environnement » à se dire « je reverse 1% ».
Le mot de la fin, c'est très simple. C'est tout le monde à 1%, à quelque niveau que ce soit, TPE, PME, ETI, start-up ou entreprise déjà largement implantée. Tout le monde peut consacrer 1% de son chiffre d'affaires à la protection de l'environnement et à la protection de la planète, parce qu'elle en a bien besoin. On essaye de proposer une solution simple et efficace pour accélérer cette transition et contribuer à la protection globale de notre environnement.
Super. Merci beaucoup Isabelle.
Je t'en prie.
Et puis pour toutes les personnes qui nous écouteraient, je vous invite à aller sur le site de 1% for the planet.
.fr.
Sur lequel il y a toutes les informations et je vous confirme. C'est très simple et puis c'est une vraie belle communauté et donc voilà, on vous engage à franchir le cap. Écoute, je te remercie et puis éventuellement si tu veux dire au revoir aux auditeurs.
Merci Justine et au revoir à tous, à très bientôt.
Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin.
Partagez-le autour de vous et notez-le 5 étoiles sur iTunes pour le diffuser auprès du plus grand nombre. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet épisode, notre invité ou nos services, contactez-nous par mail à hello@circulab.com.
C'était Justine Laurent et Brieux Saffré pour le podcast Activer l'économie circulaire. À bientôt pour un prochain épisode.